voix nues. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Michel Virlogeux. Ce soir, l'aménagement du territoire.
Bonsoir Michel Virlogeux.
Bonsoir madame.
Vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées et spécialiste mondialement reconnu de la construction des ponts. Au cours de nos précédents entretiens, il fut question de vos études, de votre goût pour l'architecture et pour les architectes avec lesquels vous avez travaillé, de votre savoir-faire et du savoir-faire des ingénieurs des ponts et chaussées en général, de la main-d'œuvre mobilisée pour la construction d'un pont qui nécessite la collaboration entre un ingénieur, un architecte et beaucoup d'autres professionnels. Ce soir, il sera plus largement question de ces grands travaux, une expression que l'on utilise surtout depuis les deux mandats de François Mitterrand, de cet aménagement du territoire auquel vous avez participé, qui véhicule des imaginaires géographiques, financiers, culturels et politiques. Et j'aimerais vous lire les premières lignes d'un roman réaliste de Laurence Cosset qui s'appelle La Grande Arche, qui raconte l'aventure de la construction de la Grande Arche de la Défense. La scène se passe à l'Élysée il y a très longtemps, dans un petit salon du palais le 25 mai 1983. Se tiennent là des proches de François Mitterrand assez excités. Ils ont la conviction de vivre un pur moment de pouvoir, et ce n'est pas faux. Robert Lyon va ouvrir l'enveloppe cachetée qui renferme le nom du lauréat du concours international d'architecture Tête Défense. Autour de lui, on reconnaît Jean-Louis Bianco, Jacques Attali, Yves Dauge, Éric Arnoux, plus connu sous le nom d'Éric Orsenna. Quelques journalistes choisis. La matinée s'achève, le président vient de trancher. Après 5 semaines d'hésitation, il a choisi parmi les 4 projets finalistes celui qui va être construit. Ce sera cette arche très pure dont on a dressé la maquette dans la salle des fêtes de l'Élysée avec les 3 autres. Ce cube ouvert, auprès duquel il a mené beaucoup de ses amis durant ces 5 semaines. Celui-là, qu'en pensez-vous? Ce sera celui-là, c'est dit. Robert Lyon a présidé le concours, il lui revient de décacheter l'enveloppe. Il est ravi, lui aussi est séduit par l'arche, c'est peu dire. Il a tout fait pour amener le président à prendre la décision arrêtée à l'instant. Et ce n'est pas facile d'influencer quelqu'un qui tient autant que Mitterrand à décider souverainement. On ne lui souffle pas ses choix, le président consulte, mais il a l'esprit de contradiction. Que soudain le soupçon lui vienne qu'il se pourrait qu'on ait de l'ascendant sur lui, il n'est plus là. Enfin, Lyon connaît par cœur la chorégraphie, il n'a pas ménagé sa peine, depuis 1 mois il est allé à l'Élysée tous les 3 jours, mais il est parvenu à ses fins, c'est l'arche qui sera construite, malgré ses 100 mètres de haut. Est-ce que cette atmosphère, Michel Virlogeux, de pouvoir, de rapport de force, vous l'avez connue? Est-ce que vous la redoutez? Ou est-ce que vous êtes habitué?
Alors, non. Si vous voulez, là, on a un pouvoir très largement au-dessus de mes moyens, si j'ose aussi m'exprimer. Non, je n'ai jamais... on n'est jamais arrivé à un niveau de... En matière de pont. Si vous voulez, je crois que les bâtiments ont au niveau politique, beaucoup plus d'impact que les ponts. Alors, ça a un peu changé avec Millau, si vous voulez. Voilà, le départ est venu surtout du pont de Normandie. Personne ne s'y intéressait quand on a commencé la construction. Et l'intérêt pour le pont de Normandie n'a démarré que lorsqu'un journaliste du Figaro est venu sur le site et a fait un article dans le Figaro. De ce jour-là, c'est devenu... beaucoup plus, c'est devenu grand public, si vous voulez. Et puis là, ça a attiré énormément de monde. Enfin, il y a eu une journée porte ouverte avec 10 000 personnes. Il y a eu au total 300 000 visiteurs. Le chef de projet, qui était Bertrand de Roubaix, qui était l'ingénieur local des ponts et chaussées, qui a fini sa carrière après chez Total. Je crois qu'il doit prendre sa retraite cette année. A été obligé d'organiser des équipes de guides pour tellement il y avait de monde. Et après, alors Millau, ça a été différent, parce qu'à partir de Millau, il y a eu tel succès sur le pont de Normandie que je dirais que pour le viaduc de Millau, il y avait 60 millions de candidats designers pour le viaduc. Ça a été assez dur de ce côté-là. Pour le viaduc de pont de Normandie, je n'étais embêté que par des ingénieurs et des entreprises. c'était très dur. Il y a un ingénieur allemand qui a écrit directement à Mitterrand pour expliquer, pour le pont de Normandie, qu'il était ridicule de confier ça à un jeune ingénieur ignorant. Quoi. C'était...
Et qui vous l'a dit ?
Ah ben, j'ai même eu une copie de la lettre. Hein. Parce que là, évidemment, Mitterrand a envoyé ça au ministre des Transports, qui est le directeur des routes. Tac, tac, tac. Hein. Moi, je suis descendu jusqu'en bas. Hein.
Et vous avez dû vous défendre ? Vous avez dû de nouveau défendre votre projet ?
Non. Alors, moi, je veux dire, la seule fois où j'ai vu un ministre, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, parce qu'il a vraiment été très bien, c'était Bérégovoy. Il était à l'époque ministre des Finances, et il fallait faire un nouveau pont sur la Loire à Nevers. Voilà. Bon, il a demandé qu'on lui fasse le projet, donc on avait fait un projet en Saturmix, un projet relativement classique, parce que si vous voulez... On est sur la Loire, comme j'ai dit avant, on va pas faire des monuments sur la Loire. Ça n'a aucun sens. Un paysage plat d'aller, comme le dit d'ailleurs Maïlys de Kerangal, on va pas plus haut, pas en bas. Non, là, on est sur une plaine, on va monter au-dessus de ce qu'il faut, mais pas plus, quoi. Alors, on est allé au ministère des Finances, on avait rendez-vous, je sais plus quelle heure exactement, mais c'était dans l'après-midi, et il nous avait fait savoir que ça serait à telle heure et qu'il avait droit. Alors, je sais plus, c'est 1 heure ou 2 heures, mais enfin, toc. Il était là, pile à l'heure. Il nous a accueillis avec une grande gentillesse. On lui a montré ce qu'on avait prévu, et puis il nous a dit, moi, j'aurais préféré un pont en béton. Je lui ai dit, monsieur le ministre, pas de problème, on vous le reprend, on vous le refait en béton. Il a dit, non, je veux le voir avant de mourir. Voilà. Bon. Alors, On était tellement gentils, on lui aurait fait ce qu'il voulait. Hein. Et puis, bon, bah, le temps a passé, il est devenu Premier ministre. Alors, je sais plus où il était Premier ministre à ce moment-là. Je me souviens plus exactement. Et donc, quand on a posé la première pierre. Et donc, il y a eu un truc. Alors, nous, on est arrivé en retard parce que l'ingénieur avec qui je descendais, c'était gouré sur la route. Quoi. Bon, donc, on s'est planté en retard. Il avait fait venir Charles Trenet. Et non, la chanson nationale 7, évidemment.
Ah oui.
Pour poser la première pierre. Et nous, on est arrivés, alors comme des Gaulois, au moment du pot de départ. Charles Trenet était déjà parti. Et là, il était là, si vous voulez, entouré avec des gens de Nevers. Mais c'était très, avec sa femme et tout. C'était très famille. C'était d'une gentillesse extraordinaire. Nous, on est restés. Il est resté, mais si vous voulez, les gens partaient petit à petit. Il est resté, je sais pas, moi, 2 heures, quand on est parti, il n'y a plus que 10 personnes autour de lui, d'une gentillesse extraordinaire. Après, alors malheureusement, il s'était suicidé entre-temps, et donc il y a eu une inauguration, on lui a donné son nom, c'est bien prêt. Puis bien sûr, il fallait lui donner ce nom-là, c'était clair, quoi. Hein. Mais j'ai pas beaucoup apprécié la cérémonie parce que. Mitterrand l'avait quand même salement laissé tomber. Hein. Donc, c'était bon.
Il a été baptisé Pierre Bérégovoy parce que, après la mort, ou il était décidé qu'il s'appellerait.
Ah non, ça a été décidé après.
Ça a été décidé après.
Après sa mort, oui.
Vous avez travaillé dans la maîtrise d'ouvrage public, mais vous avez eu affaire à des entreprises privées.
Oui, bien sûr.
Alors, je ne sais pas si on a le droit de les citer.
Bon, de toute façon, c'est pas très difficile.
Il y a Eiffage, il y a Bouygues.
Il y a trois grands groupes. Il y a Eiffage, il y a Bouygues, il y a Vinci, parce qu'il y a une concentration. Alors, il y a quand même aussi le Spi Batignol, qui est beaucoup plus petit. Il y a quand même également le groupe Faya, qui existe encore. Donc, il y a quand même pas mal. Mais les trois grands sont quand même ceux qui mobilisent quand même une grande partie de la construction.
Comment se passent les relations vous et eux?
Ça dépend. Quelquefois, je travaille pour eux. Hein. Alors, dans le temps, je travaillais uniquement pour le service public, bien sûr. Et à ce moment-là, on avait des relations, si vous voulez, où il est clair que un ingénieur du service public, il est là aussi pour défendre les intérêts financiers de l'État. Parce que vous savez qu'il y a toujours il y a souvent des réclamations, quelquefois il y a des problèmes, donc il faut le faire, hein, si vous voulez. Le décompte général et définitif, en général, il est un peu plus élevé que le budget. Alors quand c'est de l'ordre de 10%, c'est des choses normales, si vous voulez. Quelquefois, c'est beaucoup plus, et là, c'est pas normal. Et quelquefois, ça se termine par des disputes juridico-financières dures. Voilà. Bon. C'est d'ailleurs une partie de mon activité aujourd'hui, maintenant que je suis tout seul, là, que je travaille tout seul.
Comme consultant.
Comme oui. consultant, il m'arrive d'intervenir dans des arbitrages à l'étranger sur des problèmes de fric. Et là, on ça rigole pas. On parle quelquefois de centaines de millions de dollars.
C'est parce que un chantier a pris du retard, parce que la conception a changé en cours de route et...
C'est parce que l'entreprise dit que le bureau d'études n'a pas fait une étude suffisamment bonne pour lui permettre de faire un prix correct, c'est parce que... etc. Enfin, il y a des tas de raisons. Sur dès qu'on parle d'argent, vous savez, il y a toujours de grosses raisons. Hein, donc, alors ça, je peux intervenir pour une entreprise, je peux intervenir pour un bureau d'études, je peux intervenir pour un maître d'ouvrage, voilà.
Lorsque vous étiez un agent du service public,
oui.
Est-ce que vous pouviez peser dans le choix de telle ou telle entreprise ?
Alors, oui. Oui, puis non. C'est-à-dire que, si vous voulez, les choses ont beaucoup évolué. Alors d'abord, il faut dire plusieurs choses. Dans le système public, moi j'étais concepteur et j'étais conseil technique. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle un maître d'œuvre, qui était l'ingénieur local, qui était le chef de projet. C'était de Roubaix pour le pont de Normandie, par exemple.
L'ingénieur local, c'est l'ingénieur de l'entreprise.
Non, l'ingénieur local du ministère de l'Équipement.
D'accord.
Hein? Parce qu'il y avait une direction départementale de l'équipement, c'est elle qui assurait la maîtrise d'œuvre des ouvrages de l'État, ou des ouvrages des collectivités locales, demandées à l'État de construire pour elle. Donc, et là, c'était celui qui tenait les réunions de chantier, qui faisait ça, c'était l'ingénieur local, le maître d'œuvre. Moi, j'étais le concepteur au départ, puis son conseil technique derrière. Donc, c'est un rôle... Alors, quand il y avait des appels d'offres importants, c'était généralement la direction des routes qui prenait la décision... donc il fallait faire des rapports, si vous voulez, et le directeur des routes, sur la base des rapports faits par l'ingénieur local et par le CETRA, c'était donc en général moi qui le faisais, prenait une décision. Ouais, et c'était pas forcément le moins 10 ans. Hein, pour ne pas prendre le moins 10 ans, il fallait faire des choses. Alors après, si vous voulez, il y a eu une suspicion générale qui s'est installée. On a parlé de loi de favoritisme, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend pratiquement tout le temps le moins 10 ans. Après, ça finit au tribunal. Voilà. Mais à l'époque, si vous voulez, je dirais jusque vers les années... fin des années 80, je dirais, on pouvait avoir un certain impact dans le choix de l'entreprise en fonction de ses propositions techniques. Et puis petit à petit, c'est devenu de moins en moins vrai, si vous voulez, et on retenait beaucoup plus systématiquement le moins 10 ans, parce que l'ingénieur local n'avait pas envie, si vous voulez, de risquer de se faire accuser de favoritisme, parce qu'il prenait celui qui n'était pas le moins 10 ans.
Dans ce roman sur la construction de la Grande Arche, l'auteur, Laurence Cosset, dit que jusque dans les années 80, l'argent coulait à flot. Alors, même si vous avez travaillé sur des chantiers moins importants, est-ce que c'est aussi l'impression que vous avez?
Alors là, l'argent coulait à flot, ça, je sais pas où elle a trouvé ça, mais bon, je rappelle quand même que le projet du pont de Normandie a été arrêté en 1978 par Raymond Barre parce que on était en pleine crise du pétrole, donc l'argent coulait pas tant à flot que ça, si vous voulez, hein, bon. Alors, il est évident que là, quand elle parle de 83, nous sommes à l'époque de Mitterrand, André Mauroy. C'est vrai que là, il y a eu un moment où les robinets ont été ouverts. Hein, et après, il a fallu que Fabius les referme.
Voilà. Donc, c'est peut-être de ça qu'il est question.
Hein, voilà. Donc, l'argent coulant à flot, non. Ça, c'est peut-être dans ce domaine bien précis. C'était les grands projets du président. Donc là, il avait ça, c'est la Grande Arche, l'Opéra Bastille,
la
pyramide du Louvre, qui est superbe d'ailleurs, entre parenthèses, le musée d'art islamique. Enfin, là, il y avait de l'argent, effectivement.
Vous aimez, Michel Virlogeux, les relations, une fois qu'un chantier a commencé, avec l'entreprise de travaux, avec le maire de la commune, enfin voilà. Vous...
Alors, je crois qu'il faut distinguer beaucoup de choses. Le maire de la commune, c'est assez rare. Mais il y a des cas où c'est le cas. Par exemple, pour Millau, je dirais les maires de la commune, puisque Millau, ils avaient la particularité de changer de majorité à chaque élection. Mais donc là, avant, si vous voulez, on a beaucoup plus de contacts quand il faut aller présenter le projet, discuter, convaincre. Voilà. Pas partout, hein, si vous voulez. Mais il faut convaincre le client. Donc, bon. L'entreprise, après, c'est autre chose, si vous voulez. Et là, ça dépend complètement des cas. Si vous voulez, quand j'étais dans l'administration, il était parfaitement clair que je devais faire très attention à ce que je disais et écrivais, parce que toute demande imprudente pouvait conduire à une réclamation. Donc, il faut faire très attention. On a une, même si c'était pas moi qui était directement responsable du contrat, mais l'ingénieur local, il fallait quand même faire très attention à ne pas se mettre dans une position telle qu'à l'arrivée, il allait falloir passer sous les fourches caudines de l'entreprise. Donc c'est pas toujours facile. Et certaines entreprises étaient plus difficiles que d'autres, disons. Bon. Voilà, donc ceci dit, moi j'ai quand même à peu près toujours eu d'excellentes relations avec les entreprises. Il y a eu des cas particuliers parce que l'affaire a été montée au combat dès le début, mais de façon générale quand même, j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec à peu près toutes les entreprises et j'ai travaillé pour pratiquement toutes en fait, hein, depuis que je suis à mon compte. Hein. Alors ça dépend énormément, comme d'habitude, des hommes. Hein, tout dépend des gens avec qui vous travaillez. Il y en a avec qui vous travaillez dans des conditions extrêmement agréables, et puis il y en a d'autres, c'est moins marrant, quoi.
Vous avez travaillé pour la Turquie, Michel Virlogeux,
oui,
en construisant le troisième pont du Bosphore. Assez récemment, il a été inauguré en 2016.
Oui.
Est-ce que c'est compliqué de travailler? Est-ce que ce fut compliqué de travailler avec la Turquie?
Alors, d'abord, avant toute chose, je dois dire que nous étions deux concepteurs dans cette affaire. Il y avait aussi Jean-François Klein, qui est un ingénieur suisse, qui malheureusement nous a quittés parce qu'il a eu une leucémie foudroyante. Il est mort en 2018. Et donc on était deux. C'est une affaire absolument extraordinaire parce que on a eu neuf semaines pour faire le projet. J'ai été appelé par le concessionnaire futur qui a gagné le concours de concession, qui était un groupement d'Astaldi, d'un Italien, et de Ixtas, qui est une entreprise turque, en février 2012. Et il a fallu rendre le projet. Il fallait que le groupement donne son offre pour 150 km d'autoroute et le pont. C'était pas seulement le pont, mais 150 km d'autoroute. Je crois que c'était un marché de 2 milliards, 2 milliards et demi. Hein. Le 26 avril. Voilà, donc ça fait 9 semaines. Donc là, on n'avait pas le temps de rigoler. Et alors, le plus rigolo, c'est que les 15 premiers jours, pas les 15 premiers jours, mais au bout de 3-4 jours, j'étais parti pour 15 jours de croisière en catamaran dans les Antilles. Et à la fin de la période, c'est Jean-François qui était dans les Antilles en catamaran. Voilà, donc ça n'a pas simplifié les choses. Mais on a fait un boulot super. Donc on a monté toute une équipe et on a de conception. Je dois dire que j'ai été impressionné par l'audace de nos amis turcs et italiens, alors surtout le turc. L'italien, je le connaissais déjà un petit peu, le turc pas du tout. On est allé avec Jean-François le rencontrer, on l'a vu une fois. Enfin, Jean-François l'a vu une deuxième, peut-être une autre fois, parce que il est allé sur place pendant que moi j'étais dans les Antilles. On est allé rencontrer nos deux clients à Saint-Pétersbourg, parce qu'ils étaient en train de construire l'aéroport de Saint-Pétersbourg, dans la bouillasse du dégel. Et là, on a, en quelques heures, deux heures, trois heures, on leur a expliqué ce qu'on envisageait de faire. Et ils ont dit banco. Voilà. Et après, on leur a posé le papier sur la table et ils y sont allés là-dessus. Donc, c'est vraiment, il faut être drôlement culotté. Donc, le père de Firat Çeşen, l'entreprise turque, qui était le vrai patron, Firat, c'était son fils aîné, qui en fait était, disons, le directeur exécutif, a dit à son fils, tu vas nous ruiner. En fait, bon, ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est financièrement un peu moins bien passé après, parce que la livre turque s'est écroulée. Et comme il y avait des emprunts en dollars, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Mais par contre, financièrement, le chantier lui-même s'est très très bien passé. Et comme le concessionnaire avait 150 km d'autoroute avec, je sais plus, 50 ponts, 15 tunnels. Alors, il n'y a plus qu'un seul tunnel à l'arrivée, mais enfin, bon, bref. Ils n'avaient pas le temps de tout faire. Ils ont décidé de confier la construction du pont à des Coréens. Et donc le pont en définitive a été construit en sous-traitance par deux entreprises coréennes, Hyundai et SK. Et je dois dire que ça s'est quand même sacrément bien passé. Ça a été très très bien passé avec les Turco-Italiens. Un peu plus dur avec les Coréens, mais ça s'est quand même drôlement bien passé.
Et l'inauguration ?
Alors l'inauguration, c'était très particulier. Alors, on peut en dire deux, trois mots parce que cette inauguration a eu lieu un mois et demi à peu près après la tentative de coup d'État en Turquie contre Erdogan. Et donc l'inauguration a été sous un contrôle de sécurité énorme. Il y avait, je ne sais plus, c'est un ou deux bateaux de guerre sous le pont, des hélicoptères de combat au-dessus. Sur les collines autour, il y avait des blindés avec des canons anti-aériens. Et il y avait deux cercles de contrôle par l'armée, le premier étant à au moins 15 kilomètres. On a d'ailleurs failli pas le franchir parce que il y avait des contrôles et bon, il y avait pas de liste, quoi. C'était, et nous, on était pas turcs, quoi. Il a fallu téléphoner à quelqu'un qui a téléphoné pour que les services de sécurité nous lâchent, quoi. Et après, il y avait deux tribunes, la tribune officielle gardée et puis l'autre où nous étions, nous, un petit peu plus à l'écart, quoi. Et avec, comme pour la première pierre, parce qu'il y avait une première pierre, des bateaux entiers de quarts entiers de supporters d'Erdogan qui venaient pour agiter leur petit drapeau, quoi.
Quels sont, Michel Virlogeux, les rituels de début et de fin de chantier ? Vous parlez de la première pierre, hein.
Alors, la première pierre, c'est un rituel politique, hein. C'est la première pierre du pont de Normandie. Elle a été posée par Chirac, hein, qui était premier ministre à l'époque. Que je dise pas de bêtises. On était en quelle année? On était en 90, quelque chose comme ça. Non, je sais pas.
L'inauguration, c'est 95.
Oui.
Donc, il était élu président.
Ouais. C'était avant l'élection, pardon, c'était en janvier, l'élection c'était mars 95, ou mai, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était toujours Mitterrand.
Ah d'accord.
Et c'était Balladur qui était Premier ministre.
Eh oui, oui, oui.
Hein? Et alors là, Balladur, ça a été, non, c'était assez minable, je veux dire, c'était... Bon, je ne sais pas, je peux raconter ou pas?
Oui, bah oui.
Alors, voilà, bon, alors alors il y avait d'abord... C'était prévu avec une grande tente d'inauguration et il y avait les officiels arrivés dans deux bus. Alors, moi, je devais en faire partie. Alors, le préfet avait exigé que je sois dans le second bus où il n'y avait pas Balladur. Alors, pourquoi deux bus? C'est pour déjouer les attentats. Alors, connaissant Balladur, il était forcément dans le premier. Donc, ça, pour déjouer les attentats, ça ne sert à rien. Et donc, moi, on m'a mis dans le second où il y avait les ambassadeurs pour que je puisse leur raconter des trucs en anglais. Bon, on arrive... Quand on est arrivé au niveau de des tentes, là, avant de monter sur le pont où on allait couper le ruban, il y a un retardataire, qui est en plus un copain, qui était le patron de GTM à l'époque, qui a arrêté le bus pour pouvoir monter dedans. Mais le temps qu'il arrête le bus et tout, les flics ont arrêté. Donc le deuxième bus n'est jamais monté. Bon. Donc seul le premier est allé là-haut. Balladur a coupé le ruban, il a failli se faire renverser par les journalistes qui voulaient tous faire une photo. Et bref, il redescend, et puis on l'attendait, il n'arrivait pas. Puis là, de Roubaix est descendu en vitesse, il faut qu'on meuble le truc, Monsieur Balladur, le Premier ministre, est retardé. En fait, le Premier ministre voulait aller pisser. Et il y avait évidemment toute une série de tinettes, vous savez, toutes ces pissotières de chantier, là. Manque de peau, le gars qui avait mis les tinettes, il avait oublié de mettre les clés. Et donc les tinettes étaient fermées à clé. Donc il a fallu envoyer une bagnole au Havre pour aller chercher les clés. Donc pendant ce temps-là, de Roubaix et moi, on occupait la foule dans la tente. Et donc il est fini par arriver avec... Il y avait Pasqua aussi. Alors, il y avait évidemment Ruchna qui était quelqu'un de très,
le
très
maire
bien.
Du Havre.
Le maire, non, du Havre.
Était, à l'époque.
Député maire même. Hein, qui était quelqu'un de très très bien. Qui de Roubaix avait des relations très proches et très très efficaces. Il devait y avoir aussi. Je ne sais pas, il y en avait plusieurs. Bon. Et donc on a eu droit à un discours de Balladur pendant lequel Pasqua s'est endormi évidemment. C'était terrible. Et puis après, le lendemain matin, le titre de je ne sais plus quel journal, Libération, je crois, Balladur inaugure sa campagne électorale. C'était épouvantable.
C'était pas réussi.
C'était pas réussi, non.
Vous aimez l'atmosphère d'un chantier ?
Oui.
Oui.
Alors, quand ils sont bien, le chantier de Millau, ça a été extraordinaire parce qu'il y avait des patrons d'équipe qui étaient très, très, très bien. Tout dépend des hommes quand même à l'arrivée, vous savez. Tout dépend des hommes.
Et il y a des rituels qui ne comprennent pas les hommes politiques,
oui,
et qui
absolument.
Sont plus
alors,
sympathiques.
Ça, c'est plutôt la fin. Alors d'abord, il y a des très bons chefs de chantier. Moi, je sais que par exemple, Jean-Pierre Martin, qui était le patron du chantier de Millau, côté béton, mais patron global quand même, avait organisé des compétitions entre les différents pylônes, parce que les différentes piles, je veux dire, parce que les piles étaient construites en simultané, toutes les sept. Donc c'est qui arriverait à avoir les bonnes cadences et tout, sachant qu'ils avaient organisé la sécurité d'une façon très très claire. Ils organisaient de temps en temps des méchouilles quand on avait réussi à faire tel truc. Voilà. Donc il y avait une ambiance de chantier. Moi, il m'a fait descendre pour des méchouilles, par exemple. Hein. Ça servait à rien que je descende techniquement, mais bon, c'est psychologiquement, c'est quand même vachement important. Je veux dire que... Donc il y a ça. Et alors, il y a une tradition un peu malheureuse. Hein. On coupe un arbre pour les dernières opérations. Donc, le dernier voussoir du pont de Normandie a été levé avec un pauvre arbre qu'on a coupé à la circonstance. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a des petites, des rituels, je dirais, propres aux gens de la construction, c'est hors politique. Les politiques, oui. C'est la première pierre et l'inauguration. Mais vous avez des fiestas quand on a fini la dernière pile ou
un gigot bitume.
Gigot,
c'est ça. Oui.
Ça je sais pas, je connais pas l'expression. Mais bon, par exemple, quand on a fait la fermeture du viaduc de Millau, où je n'étais pas d'ailleurs, je vais rarement à ces trucs-là parce que c'est ça. En général, j'ai autre chose à faire à ce moment-là. Mais là, c'était quand même une opération importante là qui a encore donné lieu à des trucs rigolos, puisque elle a été décasée de 24 heures à cause de José Bové, qui avait promis de venir manifester Monsieur Raffarin, qui était Premier ministre, devait venir assister à la fermeture de l'ouvrage.
Et il est venu manifester.
Ah, c'est pas. Bah, je vais vous raconter l'histoire. Vous n'y coupez plus. Alors, ce qui était prévu, que de faire cette opération le jeudi. Et donc, quand on a appris que José Bové allait manifester, on a dit on va la reporter au samedi. Donc, tout le monde a annulé les billets d'avion, la location de bagnole et tout. Et puis, il est venu le vendredi. Il n'y avait personne, il n'y avait pas José Bové, mais il n'y avait pas non plus Jean-François Roviratou, le PDG des Fages.
Merci Michel Virlogeu. Demain soir, pour le dernier entretien, il sera question plus précisément du pont de Normandie et du viaduc de Millau dont vous venez de parler.
Merci beaucoup Virginie, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Léné avec Michel Virlogeu. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.